Jean Rouxval frappa du poing le dossier, le visage crispé, tout son être tendu vers l'adversaire.
« C'était vous, Maxime Lériot, et dans la galerie souterraine où se passa la cérémonie historique, parmi ceux qui composaient la garde d'honneur, vous étiez encore là, Maxime Lériot. Votre héroïsme, votre renommée militaire, vous avez fait élire au nombre de ceux qui jouèrent un rôle entre les drapeaux tricolores et les panoplies qui ornaient les murs de la chapelle ardente. Vous étiez là, et par conséquent... »
L'émotion interrompit l'apostrophe véhémente de Rouxval. D'ailleurs, avait-il besoin de dire des paroles plus précises pour que l'on devinât sa pensée secrète? Hercule Petit-Gris balançait toujours la tête avec une approbation visible qui surexcitait l'ardeur et la conviction du ministre. L'ancien adjudant ne soufflait mot. Comme des troupes qui cernent l'ennemi assiégé, les phrases d'abord hésitantes, puis vigoureuses et logiques de Rouxval avaient investi l'adversaire avant qu'il n'y prît garde. Le comte écoutait et observait sa femme d'un air soucieux. Rouxval continua.
« Jusqu'ici, même au plus profond de moi-même, je n'avais eu que des pressentiments vagues et jamais encore un soupçon nettement formulé. Je redoutais de comprendre, et c'est avec le même état d'esprit craintif, effaré, que je cherchais les preuves de ce que je ne voulais pas savoir. Elles furent implacables. Je vais les énumérer dans leur ordre chronologique, et brièvement, sans aucun commentaire. Elles proclament d'elles-mêmes, par leur simple exposé, la série des faits qui s'enchaînent et des actes qui furent accomplis. Ceci d'abord. Le jour de la Toussaint, puis le 3 novembre, le 4 et le 5, l'adjudant Lériot, dont je réussis à reconstituer exactement la vie quotidienne, se rendit le soir venu dans une auberge isolée, où il rencontra un monsieur et une dame, avec lesquels il demeura en conférence jusqu'au dîner. Ce monsieur et cette dame venaient en auto, paraît-il, d'une grande ville proche, où ils habitaient un hôtel dont on me donna l'adresse. J'y allais et demandai le registre. Du 1er au 11 novembre 1920, avaient séjourné en cet hôtel le comte et la comtesse de Boisvernet. Un silence. Le pâle visage de la comtesse se creusait. Rouxval étala son dossier. Il en tira deux feuilles qu'il déplia. Voici deux actes de naissance. L'un concerne Maxime Lériot, né à Dolincourt, Eure-et-Loire, en 1895. C'est le vôtre, Maxime Lériot. L'autre est celui de Julien de Boisvernet, né à Dolincourt, Eure-et-Loire, en 1895. C'est celui de votre fils, monsieur de Boisvernet. Donc, n'est-ce pas, même origine et même âge. Ce point est acquis. Voici maintenant une lettre du maire de Dolincourt. Les deux jeunes gens avaient eu la même nourrice. Pendant toute leur jeunesse, ils avaient conservé des relations de camaraderie. Ils s'étaient engagés en même temps. Nouvelle certitude.
Rouxval continuait de feuilleter son dossier.
Voici l'acte de décès de Julien de Boisvernet, mort en 1916 à Verdun. Voici la copie du certificat d'inhumation dans le cimetière de Douaumont. Et voici un extrait du rapport de l'adjudant Lériot qui recueillit dans une tranchée longeant la route de Fleury à Bras et près d'un ancien poste de secours la dépouille desséchée mais intacte d'un fantassin inconnu. Enfin, voici le relevé topographique de la région. L'ancien poste de secours est ici, à 500 mètres du cimetière où fut inhumé Julien de Boisvernet. J'ai été de l'un à l'autre. J'ai fait creuser le sol. La tombe est vide. Qu'est devenu le cercueil de Julien de Boisvernet? Qui l'a enlevé du cimetière de Douaumont? Qui, sinon vous, Maxime Lériot? Vous, l'ami de Julien? Vous, l'ami du comte et de la comtesse de Boisvernet?
Aucune des phrases de Rouxval qui ne contribua à l'établissement d'une vérité dont l'évidence s'imposait. Tout enveloppait l'ennemi d'arguments irrécusables. Il n'y avait qu'à se soumettre. Rouxval s'approcha de Lériot et lui dit, les yeux dans les yeux,
« Certains points demeurent obscurs. Est-il besoin de les éclaircir et de connaître heure par heure ce qui se passa dans l'ombre au cours de la mission dont vous étiez chargé? Non, n'est-ce pas? La sinistre aventure est inscrite, pour ainsi dire, sur les pages d'un livre ouvert. Nous savons que le cercueil de votre frère Delay fut d'abord transporté de Douaumont, où il reposait dans une tombe régulière, jusqu'à la tranchée où l'on vous envoyait en quête d'un combattant qui ne put être identifié. Nous savons que vous l'y avez pris, et nous savons que c'est celui-là que vous avez amené près des autres dans la casemate de Verdun. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Et pour la suite? Pour la désignation suprême parmi les 8 inconnus?
Mais Rouxval n'acheva pas. Il essuya son front couvert de sueur, et il lui fallut un certain temps pour reprendre, avec cette même intonation sourde et anxieuse.
« C'est à peine si j'ose évoquer la scène. Toute parole de doute à ce propos est un blasphème. Et cependant, n'est-ce pas une certitude plutôt qu'un doute? Oh, quelle chose affreuse! Je me souviens des instructions qui furent adressées à l'un des poilus de la garde d'honneur. Soldat, voici un bouquet de fleurs cueillies sur les champs de bataille. Vous allez le déposer sur un de ces cercueils, qui sera celui du soldat que le peuple de France accompagnera jusqu'à l'Arc de Triomphe. Vous les avez entendues, ces paroles. Vous pleuriez, évidemment, comme les autres en les écoutant. Et malgré tout, par une trahison monstrueuse. Mais comment a-t-elle pu se produire, cette trahison? Comment avez-vous réussi la duperie infâme? Il n'est pas possible que ce poilu désigné au hasard vous ait vendu son concours, ni que sa main ait pu être dirigée lorsqu'elle déposa le bouquet. Alors, répondez donc!
Jean Rouxval interrogeait, mais on eût dit qu'il avait peur d'entendre l'aveu. Son ordre n'avait pas cet accent impérieux qui force la vérité. Il s'ensuivit un long silence, tout pesant de gêne et d'anxiété. Madame de Boisvernet respira des sels que son mari lui tendit. Elle semblait très faible et sur le point de s'évanouir.